Europe 1. Le dimanche, jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain et c'est avec vous, Patrick Cohen.
Il arrive à notre invité, grand amateur d'alpinisme, de se balancer au-dessus du vide, mais il ne connaît pas l'ennui, ses journées sont rarement vides. Vulgarisateur scientifique renommé, il ne parle jamais dans le vide, mais du vide, il en parle merveilleusement, d'autant qu'il sait que depuis 1640, depuis Galilée et Torricelli, on ne peut plus dire, on ne devrait plus dire que la nature a horreur du vide. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, vous publiez chez Actes Sud ce qui est sans être tout à fait un essai sur le vide qui vous a été inspiré non par ce qui précède, mais par la réflexion d'une vieille dame, une voisine, Aladine, qui vous a dit un jour « vous devriez apprendre à faire le vide ».
Oui, en effet, je l'ai croisée dans le hall de l'immeuble un matin. On avait l'habitude de converser. Ce jour-là, elle m'a dit cette phrase qui a provoqué une sorte de choc parce que je me suis demandé ce que ça voulait dire faire le vide. Et alors faire, c'est un verbe dont on comprend bien la signification. Mais alors le vide, pour un physicien, c'est assez simple. Mais je me dis finalement, comment est-ce qu'on fait le vide? Est-ce qu'on le fait absolument? Ce qui m'a amené à étudier les Grecs, ouais. Les pré-socratiques, comme on les appelle, qui ont posé la question de l'existence du vide, qu'ils ont assimilé d'abord au non-être, oui, puis au néant. Et ensuite, il y a une séparation entre l'idée de néant et celle de vide qui a pris beaucoup de temps. Au XVe siècle, ce n'était pas encore très clair. Et puis finalement, on s'est dit que le vide devait avoir une extension spatiale. On ne peut pas penser le vide sans l'associer à une sorte de volume, alors que le néant, non. Et puis...
Alors attendez, on va s'arrêter sur quelques étapes, parce que là, vous parcourez
vite,
deux millénaires de débats entre philosophes, physiciens et théologiens aussi. Donc, au lieu de faire le vide, vous avez fait un essai sur le vide, qui est donc un puits sans fond de paradoxe, ce qui prouve d'ailleurs qu'un puits sans fond n'est pas vide, et qui nous renvoie d'abord, il faut s'arrêter là-dessus, et c'est l'une de vos spécialités, Étienne Klein, au mystère de l'origine de l'univers. A-t-il été créé à partir du vide ou du néant?
Alors, vous voyez que quand on essaie de penser l'origine de l'univers en prenant les mots au sérieux, bah, l'origine de l'univers, c'est penser que l'univers a été précédé par du néant.
Oui.
Parce que si on dit qu'avant l'univers, il y avait quelque chose,
oui,
ou bien ce quelque chose a toujours été là.
Oui. Et donc, il n'y a plus de commencement.
Et donc, il n'y a pas de commencement ni d'origine. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée,
oui,
et ce n'est pas l'origine.
Oui.
Donc, à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, on contredit l'idée même d'origine,
oui,
de l'univers.
Oui, on se demande comment le néant aurait pu créer quelque chose à partir de rien du tout.
Ça voudrait dire qu'il est associé à un principe créateur qui lui permet de cesser d'être lui-même.
Absolument.
Mais un néant qui peut cesser d'être le néant, c'est déjà quelque chose, aurait dit Raymond Devos.
Qui disait que le néant, c'était un trou entouré de rien.
Ah ben je vois, vous m'avez lu.
Bah oui, évidemment, oui. Et donc c'est le plus grand des mystères, l'origine de l'univers, on ne va pas le développer ici plus avant. Est-ce qu'il sera percé un jour, Étienne Klein?
J'en suis pas sûr du tout, parce que... Pour penser l'origine, il faut installer une sorte de déjà-là qui serait la cause de l'origine. Et il n'est pas sûr que cette cause soit accessible par les moyens de la science. Et donc la question de l'origine, soit c'est peut-être un faux problème, une question mal posée, soit c'est quelque chose qui relève du pur mystère en effet.
C'est peut-être comme dans le procès de Kafka, on est devant la porte de la solution sans y voir suffisamment clair.
Et on n'est pas autorisé à l'ouvrir.
Ouais. Autre paradoxe du vide, celui de l'alpiniste qui pense être suspendu au-dessus du vide, alors que ce qui se trouve au-dessus de lui est beaucoup plus vide que ce qui est en dessous.
Oui, les alpinistes que je fréquente sont des gens bizarres à plusieurs points de vue. Ce qu'ils appellent le vide, c'est ce dans quoi ils peuvent tomber. Et avec lequel ils ont une relation passionnelle, mais platonique.
Ouais.
Ils essaient de ne pas tomber, justement.
Oui. Même si la peur du vide, c'est pas la même chose que la peur de tomber.
Absolument, ni la peur de mourir. La peur de mourir, c'est pas la même chose que la peur de la mort. Hein. Il y a le moment où on meurt, et puis il y a ce qu'il y a après ce moment. Et les deux peurs ne sont pas exactement identiques. Non, chez les alpinistes, c'est bizarre, parce que ce qu'ils appellent le vide, c'est ce dans quoi ils peuvent tomber, qui est moins vide que ce qui est au-dessus de leur tête.
Oui, à cause de la pression de l'air.
Voilà, qui diminue quand on monte en altitude. Et en fait, c'est la gravitation qui est leur grande compagne et en même temps leur ennemi en certaines occasions, qui polarise le vide, c'est-à-dire qui lui donne une direction qui n'est pas la direction réelle.
Et c'est l'occasion de rappeler cette loi de physique simple. Si des alpinistes tombaient réellement dans le vide, c'est-à-dire dans un espace dépourvu d'air, ils ne sentiraient pas leur propre poids et tomberaient aux côtés d'objets en apparence immobiles.
Oui, quand on tombe, on ne sent pas son poids parce que les objets avec lesquels on tombe, par exemple son chapeau, son portefeuille, tombent exactement à la même vitesse. Donc si on les regarde, on a l'impression qu'ils sont en lévitation, donc ils ne tombent pas. Donc le fait de tomber à cause de la gravitation annule la cause de votre chute qui est la gravitation. Ouais. Et c'est ça qui a amené, c'est cette réflexion qu'Einstein a eue en 1907, qu'il a amené à formuler 8 ans plus tard une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale.
Mais le premier à avoir compris cela sur les chutes d'objets et le vide, c'est un génie du nom de Galilée. Vous le citez très souvent dans votre livre.
Oui, parce que j'avais peu lu et là je l'ai lu attentivement dans plusieurs de ses livres et c'est vraiment un génie. Et Galilée a l'intuition en 1604.
Oui, c'est un génie intuitif.
Oui, enfin, et en même temps, il comprend que l'observation peut nous tromper. Donc, il fait pas confiance à l'intuition. Il raisonne aussi. Il raisonne. Et il a l'intuition, en effet, que si le vide existait, et à l'époque, on ne sait pas s'il existe, il y a même des discussions sévères, il se dit, si le vide existait, alors dans le vide, le mouvement des corps obéirait à des lois simples. Mmh. Et donc, il pense le vide comme un cas limite, un cas idéal. Et un peu plus tard, l'existence du vide va être démontrée et lui donnera raison.
Ouais, Galilée n'a pas expérimenté sa théorie. Il a fait expliquez-vous, une expérience de pensée.
C'est incroyable. Pour... C'est-à-dire, il joue avec les idées pour montrer que certaines idées doivent être fausses. Par exemple, si vous supposez que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, ce qui est ce qu'on observe. Quand on laisse tomber des corps dans l'atmosphère, les plus lourds touchent le sol avant les plus légers. Et ça, on l'enseigne depuis des siècles, à l'époque de Galilée, puisque Aristote l'avait expliqué. Mais dit, est-ce que cette loi qui est conforme aux observations est vraiment vraie? Et il invente ce qu'on appelle une expérience de pensée, qui ne consiste pas à réfléchir, mais à supposer qu'une théorie est vraie et à la faire jouer dans des conditions qu'on peut imaginer, mais pas réaliser. Et l'expérience qu'il invente est la suivante. Je prends une grosse pierre,
et
une petite pierre.
Je les attache.
Alors, la plus grosse va tomber plus vite que la plus petite, si j'en crois Aristote. Je les attache l'une à l'autre par une ficelle, je laisse tomber l'ensemble, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble est plus lourd que la grosse pierre. Donc d'après Aristote, ça va tomber plus vite que la grosse pierre. Mais en même temps, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute, de sorte que l'ensemble va tomber moins vite. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Comment résoudre le paradoxe? En disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et donc c'est l'idée qu'une loi physique, en fait, peut contredire les phénomènes que cette loi explique.
Ouais, non, mais c'est absolument, absolument fascinant. On voit dans votre livre que le vide, le néant sont l'objet de débats, de théories, de controverses entre philosophes, physiciens et théologiens depuis plus de 2 millénaires. Ce qui est drôle, c'est qu'ici même, il y a exactement un an, à ce micro, Jean-Claude Carrière est venu disserter du néant.
Oui.
Qui n'est pas le vide, pas plus que le néant ne peut être réduit à la mort, même si pour lui, la mort est probablement le néant. On parlait de la mort et des alpinistes dans un instant.
Oui, le néant est associé à la mort pour diverses raisons. Le vide, c'est autre chose. On l'associe plutôt à l'ennui, qui est une sorte d'expérience psychologique de l'idée qu'un vide existe. Alors, dans le livre, j'explique que moi, je n'arrive pas à m'ennuyer. Mais j'ai des souvenirs d'enfance où les vacances me semblaient un peu longues.
Vous êtes un vulgarisateur et vous passez beaucoup de temps à essayer de communiquer votre passion des sciences, on l'entend, Étienne Klein. Est-ce que vous trouvez que la science est à sa place dans le débat public d'aujourd'hui?
En fait, les efforts de transmission des connaissances scientifiques n'ont jamais été aussi intenses qu'aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a des problèmes de circulation. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout une conception scolaire de la démocratie. Je ne pense pas qu'on doive, quand on est citoyen, s'intéresser à la science. Par contre, une république, c'est quand même un lieu, idéalement, dans lequel les connaissances scientifiques peuvent circuler librement sans trop de déformation. Et ça suppose, à mon avis, un travail sur le langage. Parce que le mot « vide » est un mot très ancien, mais ce qu'on met derrière ce mot n'a cessé d'évoluer au gré des révolutions scientifiques. Donc pour moi, la vulgarisation, c'est d'abord un travail sur les mots, c'est d'abord une critique du langage, et ça demande un certain temps que nous n'avons pas toujours. Et donc il y a beaucoup de malentendus qui circulent, et je pense que les vulgarisateurs dont je fais partie, je revendique ce terme, même si on dit parfois qu'il est péjoratif, doivent réfléchir à la façon de dire avec des mots ce que nous savons autrement qu'avec des mots.
Ce qui est sans être tout à fait un essai sur le vide qui vient de paraître chez Actes Sud. Merci beaucoup,
Étienne
Klein, d'être venu nous en parler. Europe 1.